Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, attaque terroriste hier à Tougan, plusieurs terroristes neutralisés, au moins 4 véhicules de combat détruits dans des frappes aériennes. La ville de Djibo a été ravitaillée par la route hier soir, un convoi de vivres accueilli par une population en liesse. Dépolitisation de l'administration publique, le ministre de la fonction publique rassure que la loi n'exclut ni les partis politiques, ni les militants de partis politiques. Al-Kassoum Abdourahmane est notre invité du jour au micro de Brigitte Yoda. Il se prononce sur la récente libération du journaliste français Olivier Dubois et de l'humanitaire américain. Interview à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le commissariat de police et la gendarmerie de la ville de Tougan dans la province du Sourou ont été la cible d'une attaque d'hommes armés hier à Apris Oméga de sources locales. Les tirs ont commencé autour de 5h30 et ont duré environ 45 minutes, a expliqué une source à Oméga Média. Le bilan provisoire non officiel faisait état de 2 éléments des forces de défense et de sécurité tués et plusieurs assaillants neutralisés. Justement, en riposte à cette attaque, l'état-major général des armées, avec vidéo à l'appui sur sa page Facebook, annonce que les vecteurs donc de l'armée de l'air du Burkina Faso engagés dans la zone ont permis d'intercepter l'ennemi et de le neutraliser sur sa base de repli. Un raid aérien qui a mis hors de combat plusieurs terroristes et une importante logistique, dont au moins 4 véhicules de combat. Je vous l'annonçais en titre, la ville de Djibo a été ravitaillée par la route hier soir. Le convoi de vivres sous escorte des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie a été accueilli par une population en liesse. Abdoul Fattah Tiemtouré.
Des dizaines de camions, plus de 70 selon une source locale, ont pu entrer dans la ville chargés de vivres. Selon une source sécuritaire, cela faisait 17 jours que le convoi escorté par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie avait quitté Kongoussi à seulement 95 km de Djibo. Le convoi a été accueilli à l'entrée de la ville par des centaines de personnes en liesse, confie plusieurs sources à Oméga. Cela fait plusieurs mois qu'un tel convoi n'était pas arrivé dans la capitale du Soum, qui manquait de produits de première nécessité. Il n'y avait plus rien au marché Lâche, un habitant joint par Oméga. Le 2 mars dernier, des populations de la ville étaient sorties dans la rue pour demander de l'aide face à la situation sécuritaire et humanitaire.
Tout autre chose, dans ce journal, le ministère en charge de la fonction publique a organisé une conférence de presse ce mardi 21 mars face aux hommes de médias. Il était question pour le département de Bassolma Bazié de donner plus de précisions sur la loi de la neutralité politique et la méritocratie dans l'administration publique. Selon Étienne Kabore, cette loi était en processus depuis 2015. Son élaboration a connu la participation de certains partis politiques, OSC, et des acteurs de l'administration publique et privée. Plus de précisions dans cet élément de Solomon Ninkiema.
La loi de la neutralité politique et la méritocratie dans l'administration publique a été adoptée à l'unanimité par les députés de l'ALT, l'Assemblée législative de transition. Elle vise à régir la neutralité politique dans l'administration et renforcer la méritocratie dans l'administration publique. Selon Étienne Kabouré, secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et la bonne gouvernance, cette loi a été le fruit d'un processus depuis 2015. Étienne Kabouré.
Contrairement aux rumeurs, le texte ne vise ni n'exclut les politiques dans l'occupation des postes techniques à condition qu'ils remplissent les conditions fixées. Il n'a pas vocation à empêcher un militant de parti politique à occuper une fonction technique dans l'administration. Il n'a aucunement vocation à traiter de l'ethnisme, du régionalisme et des questions liées à la pratique de la religion dans l'espace administratif, encore moins de légenter sur le port du voile, etc.
Plus de 2000 agents sont rentrés dans la fonction publique par des paramètres autres que les concours, s'indigne le ministre de la fonction publique, Bassolement Bazier.
Moi, j'ai chaud ma main ici, regardez, c'est un rapport d'audit sur les recrutements dans la fonction publique. Je viens de recevoir ça, ça fait 2 semaines. Mais quand vous parcourez le contenu du rapport, c'est grave. Après le rapport, nous avons fait une correspondance demandant à l'ensemble des institutions de notre pays de faire le point de tous ceux qui sont dans l'administration qui ne sont pas passés par des concours. Toutes les listes ne sont pas rentrées. Nous sommes à 2000 et quelques. 2000 et quelques.
C'est fini les recrutements par affinité dans les sociétés d'État. Tous les enfants du pays auront les mêmes chances à compétir pour des postes de recrutement. Tel est l'un des principes de la loi de la neutralité politique. La bonne gouvernance peut être une solution à mettre fin aux crises humanitaires et à faire sortir le Burkina Faso de l'atmosphère terroriste. Pour y arriver, il faut impérativement l'application de la loi de la neutralité politique et la méritocratie dans l'administration publique. On fait savoir les premiers responsables du ministère de la fonction publique.
Le médiateur du Faso s'inscrit dans la promotion de la bonne gouvernance administrative, mais aussi dans la réduction de la fracture sociale. Ce sont donc entre autres défis à relever. Ce mardi 21 mars, le médiateur du Faso s'est entretenu avec les représentants du gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur le plan stratégique 2023-2027. Objectif: accroître la performance du médiateur du Faso pour répondre aux besoins des citoyens afin de contribuer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Fatimata Sanou est au micro de Fawzia Zongo.
Il y a une grande déchirure au niveau des différentes communautés. Le médiateur du Faso a fait le diagnostic de la situation sur son efficacité et son intervention et sur cette question. Et nous avons vu qu'il y a des défis à relever. Alors, pour répondre à ces défis, le médiateur du Faso s'est doté d'un plan stratégique qui va couvrir la période 2023-2027. On a dégagé 2 axes stratégiques pour répondre à ces défis. D'abord, le premier axe stratégique, c'est la bonne gouvernance et le rayonnement de l'institution. L'ancrage de l'institution médiateur du Faso, son efficacité au niveau donc du paysage institutionnel. Et le deuxième axe, c'est comment réduire la fracture sociale à travers la cohésion sociale et l'instauration de la paix au Burkina Faso. Donc voilà donc les 2 axes autour duquel a été bâti le plan stratégique. Donc il est clair que le médiateur du Faso ne peut pas réussir seul à relever ces défis. C'est pourquoi nous avons invité et les représentants du gouvernement et également les partenaires techniques et financiers pour leur présenter ce plan ambitieux dans le but, bien sûr, d'avoir leur accompagnement pour sa mise en œuvre.
Parlons santé à présent. Le monde entier célèbre chaque 17 septembre de l'année la Journée mondiale de la sécurité des patients. Le ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique lui a commémoré cette journée en différé du 20 au 21 mars dernier à Ouagadougou. Le thème retenu cette année est sécurité médicamenteuse. Plus de détails avec Jean-Paul Ouidraougou.
Bonne continuation de la célébration à toutes et à tous de la Journée mondiale de la sécurité des patients. Je vous remercie.
5 millions de personnes meurent chaque année dans le monde du fait de l'absence d'une sécurité des patients, selon l'OMS. L'une des causes les plus récurrentes, c'est l'automédication. Cette commémoration en différé est l'occasion de sensibiliser le grand public sur l'importance des soins centrés sur la personne, de prévenir les dommages causés aux patients. Dr Laurent Mouyenga, chargé de programme à l'OMS Burkina.
Du point de vue international, vous avez vu, nous avons fait la situation. Plus de 5 millions de personnes meurent chaque année de faute et de l'absence de cette sécurité des patients. Ça, c'est lié au fait qu'il y a l'automédication. Les patients vont chercher des médicaments au niveau des différentes officines sans ordonnance, et soit à travers les conseils d'amis, à travers les conseils de parents, sans aucune prescription médicale. Et là, ça pose un réel problème de sécurité de ces différents patients.
À cela, il faut ajouter la qualité douteuse de certains médicaments utilisés, la formation parfois insuffisante des agents de santé ou encore les erreurs médicales. Mais pour le ministre de la Santé, Robert Kargougou, l'État burkinabé met tout en œuvre pour garantir une meilleure sécurité des patients à travers ses structures techniques.
Au Burkina, nous avons pris la sécurité des patients à bras le corps. Pour ce faire, on a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre, à commencer d'abord par l'institutionnalisation de la sécurité des patients avec la création de la direction de la qualité et de la sécurité des patients. Ça, c'est extrêmement important.
La situation reste peu reluisante sur le terrain. Des patients couchés à même le sol, des circuits électriques peu sécurisés, manquant d'extincteurs, une mauvaise gestion des déchets, c'est ce qui a été donné à voir des hôpitaux au Burkina durant les échanges. Le ministre en charge de la Santé dit prendre en compte les recommandations formulées à cet atelier pour limiter au maximum les risques liés à l'absence d'une sécurité des patients.
Mot de culture dans cette édition, les préparatifs vont bon train dans la ville de Sia pour la tenue de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Les derniers réglages sont en cours pour tout parfait. C'est l'assurance donnée hier mardi 21 mars par le Comité national d'organisation. Il a animé un point de presse à l'issue de sa présentation à Bobo-Dioulasso. Le reportage signé Paul Soma.
La 20e édition de la Semaine nationale de la culture se veut être une édition de résilience et de régularisation très attendue par les acteurs culturels du Burkina en général et les populations de Bobo en particulier. Pour ce premier rendez-vous avec les hommes des médias après sa mise en place, le Comité national d'organisation a présenté les enjeux mais aussi les innovations de cette biennale de Bobo-Dioulasso. Fidèle Tamini est le président du Comité national d'organisation.
Les enjeux de cette édition sont entre autres favoriser notre unité nationale par la richesse et la diversité de nos différentes expressions culturelles, vivre et surtout exprimer notre cohésion sociale, montrer que nous sommes un seul peuple, un et indivisible. Les principales innovations de la 20e édition de la SNC se résument entre autres par le retour de la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire en compétition dans les arts de la scène, l'amélioration des conditions d'hébergement des artistes, la participation des trésors humains vivants.
À un mois de la tenue de cet événement culturel d'envergure nationale et internationale, les petits plats sont mis dans les grands pour une SNC réussie, rassure Fidèle Tamini et son équipe.
Selon les rapports qui nous ont été faits, ça semble la mise en œuvre pour bel et bien accueillir les artistes. Pour la réflexion ici de la SNC, oui, les travaux ont commencé depuis la semaine dernière. On devrait pouvoir réceptionner le site dans 3 semaines. Depuis 4 ans, nous sommes dans la préparation de la SNC. Tout est fait prêt, presque. Voilà pour l'essentiel. Le reste, c'est juste quelques réglages opérationnels.
Au cours de ce point de presse, le logotype de cette 20e édition a été dévoilé. Le pays invité d'honneur est la Guinée-Conakry. Et comme les précédentes éditions, plus de 3000 artistes en compétition et en animation et plus de 600 000 festivaliers sont attendus dans la cité de Sia du 29 avril au 6 mai prochain. Paul Soma, Bobo, Omega Media.
Actualité internationale au Cameroun, 2 morts et plusieurs blessés dans l'effondrement de maisons. Une personne est toujours portée disparue à Beoua après de fortes pluies et des coulées de boue. C'est dans l'après-midi de samedi qu'une pluie torrentielle a provoqué des inondations et des coulées de boue sur le versant oriental du Mont Cameroun. Des torrents épais et sombres qui ont touché principalement les localités de Bokwe et le quartier de Beoua Town, emportant sur le passage des pans de route, de véhicules, détruisant donc des habitations et des commerces. En Ouganda, malgré les dénonciations des défenseurs des droits humains, les parlementaires ougandais ont adopté hier une loi renforçant la criminalisation de l'homosexualité dans le pays. Cette assemblée n'hésitera pas à restreindre quelques droits que ce soit afin de reconnaître, protéger et sauvegarder la souveraineté, la moralité et la culture de ce pays, a martelé la présidente de la Chambre des députés, Anita Among, à l'adoption de la nouvelle loi anti-homosexualité. La Chambre avait fait salle comble pour les 6 heures de séance et a abouti au vote du texte.
Omega Sport.
Actualité sportive, les étalons du Burkina Faso affrontent les éperviers du Togo en aller-retour les 24 et 28 mars prochains à Marrakech et à Lomé, respectivement, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Franck Lassina Traoré, international burkinabé évoluant au Shakhtar Donetsk, en Ukraine, absent pendant près d'une année, pour cause de blessures, signe son retour dans l'écurie étalon. Et il a hâte de retrouver la pelouse du grand stade de Marrakech vendredi.
C'est le mot que j'ai à l'endroit du public burkinabé. Et je suis très content de revenir parmi l'équipe. Ça faisait un bout de mois. J'ai eu l'opportunité de venir. Et le regroupement passé, je n'ai pas pu parce que le championnat était toujours en cours. Et comme je dis, je suis content de revenir et de continuer le travail qu'on avait commencé. Puis là, je fais partie d'un groupe. Je suis là, j'apporte un plus. Et côté humain, côté sportif. Et aider l'équipe sur la bonne marche. Parce que quand j'étais pas là, l'équipe jouait bien, ils ont fait une bonne canne et ils ont continué à gagner pendant les éliminatoires. Donc je suis là pour apporter mon plus et aider l'équipe. Et je connais l'ampleur des tâches qui m'attendent et j'en suis conscient. Je vais travailler pour et concernant mon statut dans l'équipe, ouais, je pense que ça va bouger. J'ai discuté un peu avec l'équipe, j'ai discuté avec le coach aussi, je suis confiant, je suis venu, comme j'ai dit, pour apporter le plus. Tout d'abord, bien jouer, gagner à domicile avant d'appréhender le match retour. Pourquoi pas marquer, parce que ça fait un bout de moment que j'ai pas marqué avec l'équipe nationale et j'ai envie de tout donner comme l'équipe, remporter les 3 points et essayer d'arracher la qualification au Togo.
Hubert Velu devra également faire avec le défenseur polyvalent Nassim Innocenti, qui honore sa première sélection, lui qui est méconnu donc du public burkinabé.
C'est une première, donc forcément de la fierté et juste le sentiment d'être content, tout simplement. Pour me présenter, que je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo et je suis burkinabé, ma mère est burkinabé. Et mon père est français, donc j'ai un côté burkinabé. Dès que le sélectionneur a fait appel à moi, ça, j'ai pas hésité.
Des coéquipiers, c'était qui par exemple ?
J'ai eu Abou Ouattara, peut-être que vous connaissez, enfin, sans doute. J'ai pu croiser Hervé Kofi à Lille, mais j'étais un peu plus jeune, du coup on s'est juste croisé. Et vous savez, on se connaît tous un peu indirectement. Tout ce que j'ai, leur montrer que je suis venu pour représenter mon pays et donner le meilleur de moi-même, tout simplement. Franchement, ils m'ont bien accueilli, tout le monde a été bienveillant, ils ont essayé de me mettre à l'aise tout de suite. Donc franchement, super accueil.
Rappelons que le Burkina Faso est leader dans le groupe B avec 6 points plus 4, suivi du Cap-Vert, 3 points plus 0. L'Eswatini et le Togo ferment la marge avec 1 point chacun et un goal average de moins 2.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Tout a pu participer à la libération des otages au Niger. Rien n'est à écarter. C'est ce que nous dit Alkassoum Abdourahmane, analyste sociopolitique nigérien. Pour ce spécialiste des questions humanitaires et sécuritaires au Sahel, la chose la plus importante à prendre en compte, c'est cette voie de communication qui existe entre les États sahéliens et les groupes terroristes. Alkassoum Abdourahmane est notre invité du jour au micro de Brigitte Yoda. Il se prononce sur la récente libération du journaliste français Olivier Dubois et de l'humanitaire américain.
Alkassoum Abdourahmane, bonjour.
Bonjour Brigitte.
Le journaliste français Olivier Dubois a été libéré lundi au Niger et remis aux autorités françaises après près de 2 ans de captivité. Déjà, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle?
Je pense que comme toutes les libérations d'otages prises par les bandits ou par les terroristes, c'est quelque chose à saluer. Et l'important aussi, c'est de se rendre compte que oui, il y a une voie de communication entre les différents États, que ce soit des États sahéliens ou occidentaux, avec des terroristes. Ça, c'est la chose vraiment la plus importante qui ressort de cette libération, qui constitue un gage de soulagement pour les compatriotes de ces libérés-là et pour leurs familles surtout.
Ma deuxième question, quand on sait que des otages ont été exécutés, certains libérés contre rançon et d'autres échangés contre des prisonniers terroristes, ici, à votre avis, l'on est dans quel cas de figure?
Il faut noter que beaucoup d'éléments ou de coïncidences ont précédé ces libérations. La visite du chef d'état-major général des armées françaises au Niger, la visite du secrétaire d'état américain Blinken, et tout ça, donc voilà, et je pense que ce sont des éléments à prendre en compte, puisque ces éléments-là se sont succédés en une semaine, voire 10 jours, avant que tout ne s'accélère. Tout est à prendre en considération dans ces brainstorming, en ce sens que même les hypothèses qui remettent en cause une vraie prise d'otage d'Olivier Dubois doivent être prises en considération, mais étudiées avec beaucoup d'intérêt et de désintéressement pour pouvoir aboutir à quelque chose. Et la chose la plus importante, et comme je le disais, cette voie de communication entre les États sahéliens et ces groupes armés non étatiques existe. Tout a pu participer à ces libérations, que ce soit la diplomatie, la communication, ou même les libérations, les échanges de prisonniers, ou pourquoi pas, des rançons ont été versées, puisque de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour même affirmer des montants qui ont dit être versés. Et je pense que les jours, les semaines à venir, ils seront très édifiants pour tous par rapport à réellement ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut saluer, il faut saluer la prouesse des services de renseignement nigériens, notamment la DGSE et tout ça, et surtout le cabinet du président de la République du Niger qui sûrement a trouvé, puisque ça c'est la deuxième libération la plus importante qui a été réalisée entre septembre 2022 et mars 2023, après la libération de la religieuse donc américaine qui a été prise en otage au Burkina, et aujourd'hui on arrive à la libération de cet humanitaire américain et de ces journalistes français.
Il s'est sûrement passé beaucoup de choses et on espère en savoir davantage dans les jours à venir. Et aujourd'hui, on a l'impression que le Niger semble avoir pris la place du Burkina, qui était connu comme le facilitateur et où il n'y avait pas d'attaque à l'époque de Blaise Compaoré.
En fait, c'est ça la contradiction. Le Niger, l'État du Niger remplace le Burkina dans la communication avec les différents groupes armés non étatiques de la zone, avec la seule différence qu'au moment où le Burkina de Blaise Compaoré jouait ce rôle, le Burkina était épargné de tous les problèmes. Mais le Niger joue ce rôle, communique avec les touristes, a la capacité de libérer tous les otages qui sont pris dans la zone, mais le Niger subit encore des attaques. Et le Niger est obligé de se protéger. Donc, vraiment avec des moyens de défense. Sinon, donc voilà, c'est ça qui est un peu contradictoire. Comment avoir cette capacité, cette relation, cette communication, ces liens étroits avec l'ennemi qui permet même de libérer des otages de la main de l'ennemi, mais ne pas pouvoir négocier avec l'ennemi d'arrêter de tuer vos compatriotes, d'arrêter de tuer vos soldats. Et je pense que toute la question aujourd'hui, elle est là.
Alors le paradoxe dont vous parlez, est-ce que la réponse ne réside pas dans le fait qu'au Niger, il n'existe pas un seul groupe terroriste qui opère dans le pays?
Il n'y a pas de partie du territoire aujourd'hui qui est occupée par des groupes terroristes. Mais il y a des incursions qui sont faites depuis le Burkina et depuis le Mali. En temps normal, ces incursions ne devraient pas exister au vu des niveaux de confiance et de dialogue qui existent entre l'État du Niger et ces groupes terroristes, puisque l'État du Niger arrive même à faire libérer des otages. Quand c'était le cas au Burkina sous Blaise, c'était pas possible qu'il y ait des attaques au Burkina. Donc c'est ça le paradoxe.
Al-Kassoum Abdourahman, merci.
Et c'est à moi de vous remercier pour l'opportunité offerte de m'exprimer sur cette question importante d'actualité.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Patrice Forgo. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, des infos.